Je vous propose de continuer notre lecture de l'évangile de Jean, comme je le fais maintenant, chaque fois que je donne un message, dans le 12e chapitre, donc évangile de Jean, chapitre 12. On avait déjà examiné ensemble les 11 premiers versets, vous rappelez, c'était le festin organisé en l'honneur de Jésus à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et cette scène magnifique de son onction de parfum par Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, onction que Jésus avait interprétée comme une anticipation de sa sépulture. Alors nous allons lire ce texte à partir du verset 12, donc Jean 12 à partir du verset 12. Le lendemain, donc le lendemain de cette fameuse scène dans la maison de Simon le lépreux, le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. Et c'est la fête de Pâques. Quand on dit la fête dans le Nouveau Testament, c'est Pâques. Autrement, on dit une fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. « Sois sans crainte, communauté de Sion. » Sion, c'est Jérusalem. Hein, « car ton roi vient monter sur un ânon. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arrivez à rien, tout le monde le suit. » Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi plus quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui firent cette demande, « Nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble dire à Jésus. Celui-ci leur répondit, l'heure est venue. Vous voyez, c'est le titre que j'ai choisi pour ce message, l'heure est venue, où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre, venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire, et je la manifesterai à nouveau. Ceux qui se trouvaient là, et qui avaient entendu le son de cette voix, crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit, la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament, hein, la loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Jésus leur dit alors, « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché ? Et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu ? » Pourquoi ne pouvait-il pas croire ? C'est encore Ésaïe qui nous en donne la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles, afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. » Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Donc le texte que nous venons de lire raconte l'entrée royale de Jésus à Jérusalem. Les quatre évangiles rapportent cet épisode de la vie de Jésus. Celui de Jean est le plus bref. On voit qu'une très grande foule va à la rencontre de Jésus et forme un cortège pour l'accompagner depuis Béthanie jusqu'à Jérusalem. Cette foule est composée d'une part de Juifs qui avaient assisté à la résurrection de Lazare. Vous vous souvenez que beaucoup d'amis de Marie et Marthe étaient venus de Jérusalem à Béthanie pour consoler les deux sœurs de la perte de leur frère. Et d'autre part d'un nombre probablement considérable des nombreux pèlerins venus à Jérusalem pour la Pâque et qui avaient entendu parler de lui et voulaient le voir. Toute cette foule fait donc cortège à Jésus avec les manifestations de l'honneur que l'on rendait à un roi. Venir à sa rencontre pour l'accompagner jusqu'à la capitale. Mettre des rameaux de palmier sur son chemin, étendre ses vêtements sur son passage, etc. Et la foule crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, vive le roi d'Israël !» Jésus, nous dit notre texte, avait trouvé un ânon pour son entrée à Jérusalem. Comme le souligne Jean, il accomplissait ainsi une prophétie qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un ânon. » C'est vrai que ça ne fait pas bien peur, quelqu'un qui est monté sur un petit âne. Jésus ne vient pas dans la ville royale sur un cheval de guerre, comme c'était la coutume des rois qui venaient se faire investir de la royauté sur leur peuple, mais sur un humble ânon. En Jean 6, les foules que Jésus avait nourries avec la multiplication des pains et des poissons voulaient l'enlever pour le faire roi. Mais Jésus s'était retiré sur la montagne afin de ne pas céder à un enthousiasme messianique prématuré. Là, il accepte cet hommage de la foule, bien qu'il sache parfaitement à quoi s'en tenir. Cette foule l'acclame aujourd'hui, une autre, très peu de temps après, va réclamer sa mort. S'il accepte cet honneur de la foule d'être acclamé comme roi, c'est parce qu'en un sens, c'est vrai. Il est le roi d'Israël, et même bien plus. Il le reconnaîtra d'ailleurs devant Pilate, peu de jours après. Mais il précisera aussitôt, « Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Il arrive dans la ville, et là, parmi la foule des prosélytes qui étaient venus à Jérusalem pour la fête de la Pâque, des Grecs, dans le texte original c'est des Grecs, dans la Bible du Semeur il est traduit par des non-juifs, mais ça veut dire la même chose, tout ce qui n'était pas juif c'était des Grecs en gros pour eux. Des Grecs font savoir à ses disciples qu'ils aimeraient le rencontrer. Jean est le seul des quatre évangélistes à nous rapporter ce fait. Son texte ne dit rien d'ailleurs de cette entrevue, mais Jean rapporte les paroles de Jésus prononcées à cette occasion. Au verset 23, il leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Par cette métaphore, Jésus indique clairement que l'heure de sa mort a sonné. Le verset 32 nous permet de comprendre que la rencontre avec ces non-juifs est pour lui le signal du Père, que le moment est venu d'offrir sa vie pour le monde entier. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Non seulement les juifs, mais aussi les Grecs, c'est-à-dire tous les païens. Jésus annonce donc clairement sa mort. D'ailleurs, la foule a bien compris ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait d'être élevé au-dessus de la terre, puisqu'elle dit au verset 33 « La loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre ? Au fait, et qui est-il donc ce Fils de l'homme ?» Notons au passage que c'est le drame du peuple juif encore actuellement. Il n'a pas compris que son Messie doit mourir et ressusciter pour le salut de tous les hommes. Cela explique que la plupart d'entre eux n'ont pas reconnu et ne reconnaissent toujours pas en Jésus le Messie qui leur avait été promis par les prophètes. Ils interprètent de façon erronée le texte le plus clair de l'Ancien Testament au sujet de la mort nécessaire du Messie, le serviteur de l'Éternel, à savoir Ésaïe 53. Pour eux, le serviteur de l'Éternel, eh bien c'est le peuple juif lui-même. Ils pensent donc que voilà. C'était ce serviteur qui devait mourir. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que le peuple juif a connu de fortes tribulations dans ce monde au cours de l'histoire. Je rappelle ces versets d'Ésaïe 53, verset 10. « Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation ou sacrifice pour le péché, il verra une descendance. Après avoir tant souffert, il verra la lumière, image de la résurrection, et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. » Mais en même temps, la métaphore que Jésus utilise du grain qui demeure seul s'il ne meurt s'applique aussi à ses disciples. Remarquez au verset 25. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Cela signifie que le Seigneur nous invite nous aussi, nous ses disciples, à mourir d'une certaine manière. Pas physiquement, ce n'est pas un appel au martyr, mais dans le sens de mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire à faire peu de cas de notre vie et des avantages matériels que nous pouvons en retirer pour servir avant tout le Seigneur, car il sait parfaitement ce dont nous avons besoin pour cette vie et il nous le fournit. C'est ce que Paul dit en Galates 6, verset 14. « En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. » Mais si nous nous mettons volontairement à son service, le Père nous honorera, c'est ce que Jésus vient de dire. Le terme employé est de la même racine que le fait d'honorer un service, c'est-à-dire de le rémunérer. Il parle là des récompenses promises à ceux qui l'auront suivi durant leur vie. Au verset 27, Jésus nous rapporte le trouble, Jean, nous rapporte le trouble qui s'est emparé de Jésus à la perspective de sa mort prochaine avec tout ce qu'elle comporte. Le côté horrible et ignominieux de son supplice. L'horreur d'être traité par le Père comme porteur du péché de toute l'humanité. Et le comble, l'abandon même du Père, obligé de détourner ses regards de son Fils pendant les 3 heures sombres. Il nous rapporte donc ce combat intérieur de Jésus. « À présent, je suis troublé. Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. » Ce dilemme nous fait toucher du doigt que Jésus était pleinement homme, soumis aux mêmes émotions que nous. Il sort vainqueur de ce combat intérieur et désire que son Père manifeste sa gloire. Le Père répond à sa demande par une voix venant du ciel. « J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. » André nous a parlé dimanche dernier de la gloire de l'Éternel qui s'est manifestée aux yeux de tout le peuple lors de l'inauguration du tabernacle. On trouve plusieurs passages dans l'Ancien Testament où Dieu a manifesté sa gloire devant son peuple. Là, il va la manifester de façon suprême dans le don de son Fils. La foule a perçu confusément cette voix. Certains ont cru à un coup de tonnerre, d'autres qu'un ange lui a parlé, probablement en fonction du degré de sensibilité spirituelle de chacun. Mais Jésus précise que cette voix est venue pour eux, pour la foule et non pour lui, et que cette déclaration signifie l'imminence d'un événement unique dans l'histoire du monde. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Là, c'est en effet la manifestation suprême de la gloire de Dieu et de la victoire que son Saint-Fils va remporter. Ce monde va maintenant être jugé. Il a déjà connu un jugement partiel avec le déluge. Mais maintenant, le verdict définitif de Dieu va être rendu avec la mort expiatoire de Jésus sur la croix. Maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Satan avait pu se permettre d'offrir à Jésus les royaumes de ce monde et leur magnificence lors de la tentation au désert, car il avait usurpé la domination sur le monde donnée par Dieu à Adam, tombé dans le péché et chassé du paradis. Jésus avait remporté une première victoire en rabrouant Satan par l'Écriture. Satan va de nouveau l'affronter à la croix et sera à nouveau vaincu, mais cette fois définitivement. Il sera chassé des lieux célestes et dépossédé de sa domination, même si son influence néfaste ne sera définitivement détruite que lorsqu'il sera jeté dans les temps de feu et de soufre qui lui est réservé, ainsi qu'à ses anges et à ceux des hommes qui l'auront suivi. Jésus avertit la foule que la lumière, c'est-à-dire sa personne, va leur être ôtée. Et il prévient de l'urgence qu'il y a à se laisser éclairer par elle pour qu'ils deviennent eux-mêmes des enfants de lumière. C'est une autre façon de dire qu'il attirera tous les hommes à lui. Quand il dit tous les hommes, cela signifie des hommes et des femmes d'origine juive ou non, mais qui croient en lui, bien sûr. Les autres évangiles nous rapportent que, dans les jours qui ont précédé son arrestation, sachant qu'il lui restait peu de temps, Jésus a continué à enseigner dans le temple, à exhorter les gens à recevoir ses paroles comme étant celles de Dieu lui-même, et cela malgré l'opposition des autorités religieuses. Après avoir dit cela, il se retire et se tient caché de la foule. Il ne parlera plus désormais qu'à ses disciples, jusqu'à son arrestation. Tous les chapitres qui suivent, hein, jusqu'au chapitre 17, ce ne sont que des entretiens avec ses disciples. À partir du verset 37, Jean constate avec tristesse l'incrédulité générale du peuple juif et de ses chefs. Il y voit l'accomplissement d'une prédiction du prophète Ésaïe. « Seigneur, qui a cru à notre message ? Et à qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée ?» Ça, c'est Ésaïe 53, verset 1. Et Jean voit dans cette incrédulité générale une autre prédiction d'Ésaïe. Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur intelligence, et qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. C'est Ésaïe 6, verset 10. Et Jean ajoute, « Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu sa gloire et qu'il parlait de lui. » Dans la traduction du Semeur que j'ai lu, il est dit « parce qu'il avait vu la gloire de Jésus ». Donc Ésaïe, hein, 4 siècles avant Jésus-Christ, même plus que ça, avait vu la gloire de Jésus. Cette traduction est juste parce que le « ça » de sa gloire se rapporte à celui dont il est question dans ce paragraphe au verset 37. Rappelez-vous, « malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait accomplis devant eux, ils ne croyaient pas en lui ». Donc, quand il est question de sa gloire dans ce passage, c'est bien celle de Jésus. C'est donc bien de Jésus que Jean parle quand il nous dit que le prophète Ésaïe avait vu sa gloire et qu'il avait parlé de lui. Quand on lit le passage d'Ésaïe que Jean cite, donc c'est Ésaïe 6, on voit qu'il s'agit d'une vision que le prophète a eue de Dieu lui-même. Et au cours de cette vision, Dieu charge Ésaïe d'aller parler à ses concitoyens. Mais il le prévient que sa parole ne sera pas écoutée. Ésaïe 6, verset 9. Et le Seigneur me dit, « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. » Verset 10. « Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas, qu'il ne revienne pas à moi afin d'être guéri. » C'est donc un des passages de la Bible qui identifie clairement Jésus au Seigneur. Malgré cette incrédulité générale, Jean reconnaît que beaucoup, et même parmi les chefs, ont cru en Jésus, tout en déplorant qu'ils n'osent pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue. Le chapitre se termine sur une déclaration solennelle de Jésus, les versets 44 à 50. Il affirme qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Cependant, les paroles qu'il prononce sont celles du Père, et celui qui ne les reçoit pas et ne les met pas en pratique sera jugé par ces mêmes paroles. Or, ces paroles sont justement celles qui, aussi, procurent la vie éternelle. Cela signifie clairement que refuser le témoignage de Jésus, c'est s'auto-condamner à être privé de la vie éternelle. L'intention divine est claire, c'est de sauver. Mais l'incrédulité entraîne inéluctablement le jugement. Cette incrédulité a fait pleurer Jésus, justement quand il approchait de Jérusalem. Cela nous est rapporté en Luc 19, verset 41. Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. » L'histoire nous apprend que cette prophétie s'est réalisée à la lettre. Lorsque Jérusalem a été détruite par les armées romaines en l'an 70, en raison des soulèvements juifs incessants qui avaient fini par exaspérer les Romains. Jésus a donc prédit cette catastrophe nationale pour Israël, qu'il qualifie dans un discours sur la fin des temps de « commencement de douleur ». Commencement seulement. Dans l'évangile de Jean, ce chapitre clôt le témoignage public de Jésus. Désormais, il ne parlera plus qu'à ses disciples avant la croix et après aussi, lorsque ressuscité, il viendra plusieurs fois à leur rencontre avant de remonter au ciel. Les hommes ont cru éteindre la lumière divine que Jésus incarnait. Mais sous le souffle du Saint-Esprit à la Pentecôte, cette lumière va se répandre dans le monde entier par le témoignage de ses disciples. Alors, à nous aussi de reprendre le flambeau jusqu'à son retour, où il nous introduira définitivement et pleinement dans son royaume. On a vu que la foule a rendu un hommage royal à Jésus. Pensons dans nos cultes à cette dignité de notre Seigneur, roi des rois et seigneur des seigneurs, comme c'est dit dans l'Apocalypse. Hein ? Dans un monde où tant d'hommes ont prétendu et prétendent encore à ce statut d'être des rois. La suivante. On a lu que celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Autrement dit, quel Seigneur servons-nous ? Le Christ ou nous-mêmes ? La suivante. Là où je serai, mon serviteur sera aussi, c'était le verset 26. Paul dit un peu la même chose. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. Alors je pose la question, où plaçons-nous, où est-ce que je place ma fierté ? Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Cet honneur comporte l'approbation du Père sur le travail de son serviteur et les récompenses qu'il se plaira à lui donner. On a cela notamment illustré par la parabole des mines ou la parabole des talents. Je crois que c'était... Et encore une. Et donc le chapitre se terminait par cette question de la lumière qui est encore parmi vous pour un peu de temps, disait Jésus. Croyez en la lumière afin de devenir vous-même des enfants de lumière. En Matthieu 5, 14, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Notre mission est de faire briller la lumière de l'Évangile dans ce monde de ténèbres. Ou bien, mettrons-nous cette lumière sous le boisseau, Matthieu 5, verset 15, par crainte du jugement des autres ? On a vu Jean 12, 43, que même ceux qui avaient, parmi les chefs qui avaient cru en lui, tenaient davantage à la gloire qui vient des hommes qu'à celle qui vient de Dieu. Voilà, j'ai terminé ce chapitre 12 et je pense continuer la prochaine fois avec le chapitre 13.